cordiale bienvenue à chacun, à chacune. Heureux de pouvoir vous accueillir dans la paix et dans la liberté. Que le Seigneur nous encourage ce matin. Je pense qu'on a besoin les uns les autres d'entendre sa voix, de nous adresser à lui. Et nous aurons l'occasion de vivre ce culte dans ces allers-retours-là. Hortus nous accompagne en délégation au moins pour deux temps de louanges ce matin, un premier dans quelques instants, et puis nous aurons un second temps après la prédication où nous aurons aussi la possibilité les uns les autres de prier si nous le souhaitons. J'aimerais prier. Cher Seigneur, dans ce monde mouvant, tu ne changes pas, tu ne varies pas, tu n'es pas dépassé, tu n'es pas inquiet. Tu tiens fermement le monde entre tes mains, tu tiens nos vies entre tes mains. Et notre privilège à nous, c'est de pouvoir nous reposer en toi. Te remercie pour ce jour de repos que tu as voulu depuis la création du monde. Ce jour de repos qui symbolise aussi le repos que nous trouvons en Christ. Que nous puissions goûter ce repos ce matin. Cher Seigneur, je te prie de nous parler. Nous avons besoin d'entendre ta voix dans le concert des choses abondantes que nous entendons, des fois déconcertantes. Nous avons besoin de toi. Et nous te prions par ton Saint-Esprit de venir éclairer nos esprits. Nous nous attendons à toi. Nous te prions ensemble. Pour les enfants qui se réunissent en bas, merci de les réjouir, de les rencontrer. Merci de renouveler aussi les monos, s'il te plaît. Te prions également pour cette grande église que tu bâtis, que tu rassembles sur la surface de la terre. Visite-la en ce jour, comme les autres jours. Prends soin de cette église. Fais du bien à celles et ceux qui s'attendent à toi. Te remercie d'être au milieu de nous ce matin et nous nous attendons à toi encore une fois. Dans le nom de Jésus. Amen.
toi mon âme. Éveille-toi mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ses merveilles, relève-toi. Folie de mes projets. lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qui voudra, ce que sa main peut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. De ton salut. Courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds.
Beaucoup, c'est courageux de chanter avec le masque. Pour nous tous et toutes. Hein. De courage et de quitter son rivage, il en sera question ce matin. Mais avant cela, l'occasion de vous présenter mes meilleurs voeux pour une année 2022 aussi paisible que possible. Savez-vous quelle fête nous avons célébrée ce jeudi 6 janvier ? L'Épiphanie ou la fête des rois. C'est quoi l'Épiphanie ? C'est pas un prénom, hein, Épiphanie. L'Épiphanie, c'est un mot transcrit du grec qui signifie apparition ou manifestation subite. Et dans la tradition chrétienne, qui est la nôtre, l'Épiphanie, ou la fête des rois, c'est la commémoration de cet épisode biblique de la visite des mages à Jésus alors qu'il était enfant. Et nous en lirons le récit tout à l'heure. L'Épiphanie, plus prosaïquement, c'est aussi ce moment où l'on mange la galette des rois, avec ou sans frangipane. Et ce dimanche, c'est un peu le pic de l'Épiphanie, et j'espère que vous n'aurez pas trop d'effets secondaires. La galette, une tradition qui n'a rien de biblique et qui vient même d'une des plus grandes fêtes païennes romaines, les Saturnales. Pendant 7 jours, la hiérarchie sociale pouvait être critiquée, voire tournée en dérision pendant les Saturnales. Et par exemple, les soldats tiraient au sort, grâce à une fève, un condamné à mort qui devenait le roi, le temps des réjouissances. Et au bout de 7 jours, il était exécuté. Fin de la fête. Pittoresque. Et puis à quelques années-lumière du message évangélique. Ceci dit, dans la fête de l'Épiphanie, il n'y a pas que la tradition de la galette des rois qui s'éloigne de la Bible. Avec la représentation du récit de la visite des mages, on est assez souvent dans le folklore. On est très éloigné de la sobriété du récit biblique. Regardez cette image, si elle apparaît, de la crèche. Vous l'avez. Cette image de la crèche. Cherchez un peu les erreurs. Dans la Bible, déjà, on ne parle jamais de roi pour les mages. Et puis, on ne sait pas non plus combien ils étaient. Et on connaît encore moins leurs noms. Melchior, Gaspar, Balthazar, c'était du folklore. Et l'épisode en question, dans nos Bibles, il a lieu plusieurs mois après la naissance de Jésus, parce que le récit situe la visite des mages dans le contexte du massacre des enfants jusqu'à 2 ans, commandé par Hérode. Et le texte biblique précise que c'est d'après l'époque précisée par les mages, donc les enfants jusqu'à 2 ans, qu'Hérode commande ce massacre. Donc on est très loin au moment de la récit du récit de la visite des mages, on est très loin du petit Jésus nourrisson dans sa crèche. On est beaucoup plus proche d'un Jésus qui a entre 18 mois et 2, voire 3 ans. Il n'était donc plus dans une étable à Bethléem. C'est du folklore. Mais même nettoyé de tous les ajouts de la tradition et du folklore, le récit biblique reste assez mystérieux, pittoresque, au point que certains se sont demandé s'il ne faudrait pas considérer cette partie du récit biblique, voire plus, comme une fable, comme une sorte d'histoire ajoutée par Matthieu pour crédibiliser son récit. Mais rien de plus. Et ils se sont posé cette question parce que ce récit n'apparaît dans aucun autre des évangiles. Le texte biblique est vraiment un travail de littérature infiniment plus étonnant, magnifique et merveilleux que ce que les chercheurs et même les théologiens en font. Le récit biblique, il m'émerveille, il me bouscule, il me rejoint, il me nourrit et il me change, si seulement je l'accueille. Alors avec nombre de théologiens, avec nombre d'historiens, dans cet épisode, moi, je vois un événement historique fort dans l'histoire du christianisme. Et je vous propose donc d'en écouter la lecture que Denise va venir nous faire. Matthieu 2, 1 à 12.
Jésus, pardon. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Ayant rassemblé tous les principaux prêtres et les scribes du peuple, il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent : C'est à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moindre entre les principales villes de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode, ayant appelé les mages en secret, s'enquit exactement auprès d'eux du temps où l'étoile était apparue. Et, les envoyant à Bethléem, il leur dit : Allez, prenez des informations exactes sur ce petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, les mages partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où se trouvait le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils eurent une fort grande joie. Étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant devant lui, ils l'adorèrent. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui présentèrent des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, ayant été divinement averti par un songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Petite enquête sur les mages. Un évangile, ce n'est pas quelque chose que l'on lit comme un rapport de police qui relaterait un peu froidement les faits. Un évangile, c'est même pas quelque chose qui se lit comme un ouvrage d'histoire au sens moderne. Il y a toujours une intention dans un évangile. Le message de l'évangile est toujours le plus important. Une fois qu'on aurait peut-être réussi à démontrer l'historicité d'un événement, si c'était possible, on n'en aurait pas encore forcément compris la portée. Et on passerait donc à côté de l'essentiel. Mais ce n'est pas là une raison pour refuser toute vraisemblance à un récit dès le moment où il contient une part de mystérieux, de miraculeux, comme ici. Dans son désir de se dévoiler à nous, Dieu maintient en équilibre le pédagogique, le mystérieux, le compréhensible et le miraculeux. Si je reçois volontiers des arguments historiques, des arguments scientifiques, des bases objectives données par des personnes compétentes dans leur matière, je refuse cependant de faire de ma foi quelque chose de toujours objectif, toujours vérifiable. Quand je parle de ma foi, quand je la confronte à l'Évangile, j'accepte une part de risque. Je me montre vulnérable. Pour ce récit de la visite des mages, j'aimerais donc souligner quelques éléments de vraisemblance de l'histoire. Il ne s'agit pas pour moi de vouloir à tout prix prouver l'historicité du récit, même si j'y crois, parce que je pense que c'est impossible de prouver l'historicité du récit. Et puis dans le fond, ce n'est pas très utile. Parce que ma foi, elle est appelée à se nourrir de l'étonnant, du transcendant. Elle est appelée à se déployer dans la confiance de ce qui me dépasse et de celui qui me dépasse. Mais le fait que ce récit soit vraisemblable en bien des aspects m'invite déjà à le prendre au sérieux. Ce que l'on sait de la personnalité d'Hérode le Grand, ce que le récit dit d'Hérode correspond à ce qu'on connaît du personnage par ailleurs. Et un des très grands historiens du tout premier siècle de l'histoire chrétienne, Flavius Joseph, qui a écrit des pages et des pages sur la personnalité d'Hérode le Grand. Et ce qu'on découvre dans ce récit correspond à ce qu'on sait du personnage. Même dans la suite du récit biblique, quand il ordonnera le massacre des enfants à Bethléem. Un véritable tyran, parano, jaloux de son propre pouvoir. On sait qu'il s'est rendu coupable de quantité d'autres massacres que celui dont on parle dans l'Évangile, à commencer par le meurtre de ses propres fils, de peur qu'ils ne lui prennent son pouvoir. Triste personnage, roi de pacotille, orgueilleux, usurpateur, accapareur, violent. Un encens, c'est l'antichrist par excellence, un encens. Et dans ce court récit de 12 versets, nous avons ce type d'antichrist et le Christ. Ce qu'on sait des mages ensuite. Qui pouvaient être ces mages venus d'Orient? Le mot grec qui est utilisé dans nos Bibles, magos, donné mage en français, c'est un mot qui vient de l'ancien persan. Et ce mot était utilisé, magos, pour désigner les prêtres zoroastristes, la plus vieille religion connue du monde. Ici, le terme, il est utilisé dans un sens plus large que prêtre de Zoroastre. visiblement, ce ne sont pas des magiciens, mais plutôt des observateurs des étoiles, des astronomes, sans doute des savants, comme il y en avait tant dans l'Antiquité en Orient, des chercheurs, des découvreurs, des scientifiques. Aujourd'hui, on les qualifierait plus d'astrologues que d'astronomes. Et ils cherchaient bien des signes dans les étoiles, croyant que même le ciel peut parler. Et en passant, moi je trouve très savoureux de voir que Dieu se révèle à ces savants venus d'Orient par l'astrologie qu'il condamne par ailleurs dans la Bible. Dieu est le Dieu des nations. C'est pas le Dieu d'une seule culture. C'est même pas le Dieu d'un seul peuple. C'est le Dieu du monde. Et le Dieu de la grâce fait éclater les cadres. Et il emprunte parfois des chemins surprenants pour venir nous parler, pour venir nous rejoindre, pour parler notre langage, pour se donner à comprendre. Dieu éclate le cadre. Veillons donc à ne pas fermer, nous, dans nos seuls horizons connus, autorisés et maîtrisés. S'il y en a un qui peut sortir du cadre qu'il a créé, c'est lui, parce qu'il est le Seigneur de l'univers. Ce qu'on peut penser de l'étoile maintenant. L'étoile, les astronomes s'y sont beaucoup intéressés. Et plusieurs ont essayé de comprendre à quel phénomène astronomique cette manifestation de l'étoile pouvait faire référence. On a souvent pensé à une comète, et puis des récentes recherches montrent que ça fonctionne pas trop, la comète, parce qu'on connaît leur trajectoire, on peut remonter scientifiquement aux trajectoires très anciennes des comètes. Aujourd'hui, on évoque plutôt un alignement de planètes ou alors une supernova, c'est l'implosion d'une étoile. Ainsi, on sait qu'en 7 avant Jésus-Christ, une conjonction très rare s'est produite dans le ciel. Jupiter et Saturne se sont rapprochés 3 fois de suite dans l'année, en juin, en septembre et en décembre. Elles apparaissaient ensemble dans la constellation du Poisson, qui désignait entre autres la Palestine. On a aussi retrouvé dans les écrits d'astrologues chinois l'évocation d'une étoile très brillante, probablement donc une supernova, qui est apparue en mars-avril de l'an 5 avant Jésus-Christ. Et comme on sait par ailleurs que Jésus n'est pas né en l'an 1, parce que le calcul était erroné au moment de l'établissement du calendrier chrétien, mais plutôt quelques années avant, ça pourrait tout à fait coller. La conjonction de planètes observée par les mages aurait pu les mettre en alerte, et puis l'apparition d'une étoile brillante, une supernova, moins de 2 ans après, aurait bien pu les engager à ce moment-là à prendre la route. Dieu a bien la liberté de se révéler comme il l'entend. Hébreux 1, 1 à 3. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à bien des reprises et de bien des manières différentes par les prophètes. Mais maintenant, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Et c'est lui qui l'a établi héritier de toutes choses. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est l'expression même de ce que Dieu est, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Toutes ces considérations, elles ne prouvent évidemment pas en soi l'historicité de l'événement. Mais ces éléments, que j'appelle des éléments de vraisemblance, nous invitent à prendre le texte au sérieux. Et le prendre au sérieux, c'est se laisser interpeller par lui, c'est d'abord se laisser interpeller par lui. Et si Matthieu nous invitait donc à rejoindre les mages sur leur chemin, à nous laisser inspirer par leur voyage, pour notre propre voyage de foi. Et si à partir de la rencontre avec Jésus, il y avait encore une force d'émerveillement et de changement. Entreprendre un voyage. Comme il a rejoint les mages dans leur observation des étoiles, Dieu nous rejoint là où nous sommes, avec ce que nous sommes. Dieu nous rejoint dans notre quotidien, et c'est dans notre quotidien qu'il nous invite à nous mettre en marche, à entreprendre un voyage. C'est dans notre lieu de vie, chez nous, avec nos enfants, avec nos parents. C'est dans nos lieux de travail, avec toute la complexité qui réside dans le monde du travail. C'est sur notre lieu de retraite. C'est dans nos lieux de loisirs. C'est là où nous sommes, avec ce que nous sommes, que Dieu nous invite à entreprendre le voyage. La foi est un voyage, une longue marche ascendante vers Dieu. Il faut se lancer. Il faut avancer pas à pas. Il faut accepter une part de risque, une part d'inconnu, sinon on en reste simplement à observer les étoiles ou à voir les années filer. Ce que les mages ont compris de leur observation des étoiles les a donc conduits à Jérusalem, au lieu de la vie politique, religieuse d'alors. Et là, ils apprennent que la ville où doit naître celui qu'ils cherchent est bien plus modeste que Jérusalem. Petite ville, Bethléem. Ils sont près du but, mais ils n'y sont pas encore. Le danger, là, dans leur quête, c'est de s'arrêter en route. C'est de se contenter de ses acquis. C'est de ne pas être ouvert à la nouveauté. Et finalement, c'est de tourner autour de soi. Le danger pour la foi, c'est de se contenter de connaissances. Le danger pour la foi, c'est de se contenter d'une simple croyance. Le danger pour la foi, c'est d'en rester à la surface des choses, à se contenter du minimum. Voilà le danger pour la foi. Alors que la foi, c'est la rencontre, c'est la nouveauté, c'est le décentrement, c'est l'explosion des cadres. Si ce que nous adorons, mes amis, ne nous change pas profondément, si ce que nous adorons ne nous remet jamais en question, si ce que nous adorons ne nous pousse pas dans nos retranchements, je crains que ce soit que nous-mêmes que nous adorions et que nous finissions par nous renvoyer simplement à tout ce que nous aimons. Les mages vont donc jusqu'à Bethléem. Ils ne s'arrêtent pas à Jérusalem. Et là, quand ils arrivent à Bethléem, ils rencontrent celui qu'ils cherchent. Il n'y a pas grand-chose qui nous est dit sur cette rencontre. Sinon que, ils l'adorent. Ils adorent celui qu'ils cherchent. Et ils ne le font pas avec leurs lèvres, on n'a pas de mots. Ils le font concrètement avec de précieux cadeaux. Je sais que beaucoup de choses ont été dites, écrites, décortiquées à ce sujet, et la signification supposée des présents me laisse des fois dubitatif. Mais je retiens une chose ici. C'est que Jésus est digne de ce que nous avons de plus précieux. Il en est digne. Et je ne pose qu'une seule question, et je la pose à moi d'abord. Elle n'a rien de rhétorique. Que lui donnes-tu ? Que lui donnes-tu ? Qu'est-ce que tu lui présentes de précieux ? Il a toujours les miettes ou de temps en temps il se taille la part du lion ? temps, un peu d'argent, quelques capacités qu'il m'a données en plus, des dispositions de cœur, qu'est-ce que tu lui donnes quand tu trouves celui que tu cherchais? Quand celui que tu cherchais se donne à toi, qu'est-ce que tu lui donnes? Ça, c'est la question principale que me laisse ce récit. Jésus n'est qu'un enfant, il n'a rien montré de sa seigneurie, rien du tout. Mais il l'adore comme un roi. Parce qu'ils savent que celui qu'il rencontre, c'est le roi promis pour les nations. Ils en sont eux-mêmes au bénéfice. Dans cette scène de la petite enfance de Jésus, c'est déjà la portée mondiale de l'évangile qui se dévoile. Ésaïe 60, verset 3, « Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. » La portée mondiale, universelle de l'évangile. La foi, c'est donc cette rencontre initiale qui bouleverse, qui change la donne. La foi, c'est aussi la confiance qui s'installe, qui irradie, comme celle des mages qui voient bien au-delà du seul petit enfant. Au début de notre cheminement de foi, Jésus que nous rencontrons, c'est encore qu'un enfant. Nous connaissons très peu de lui. Tout est en germe. Et puis il va grandir au fur et à mesure de notre cheminement. Il va grandir au fur et à mesure de la route qu'il se propose de faire avec nous, en nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Ça, ce n'est pas le Jésus qu'on découvre au tout début de notre rencontre avec lui. Ça, c'est le Jésus qu'on découvre quand on a quelques kilomètres au compteur, que les années ou les circonstances pèsent. Et nous découvrons que nous pouvons nous présenter devant lui pour qu'il nous donne de la paix, du repos pour nos âmes. Nous pouvons apprendre tant de choses sur le Jésus de Nazareth historique, en tant qu'enquêteur, ou dans une pure dimension théologique, académique. On peut apprendre tant de choses sur lui. Mais nous ne rencontrerons jamais le Christ tel qu'il est tant que nous ne serons pas venus à lui en tant qu'adorateur, en tant qu'adoratrice. Moins de nous, plus de lui. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et puis, fin du récit. Les mages repartent par un autre chemin. Verset 12. Si les mages repartent par un autre chemin, c'est pour ne pas retourner à Jérusalem vers Hérode. Mais il me semble ici que l'expression « aller par un autre chemin » peut aussi avoir valeur de métaphore de changement opéré dans le cœur. Ils repartent différents après leur rencontre avec Jésus. La foi qui naît d'une rencontre avec Jésus-Christ, c'est une foi qui forcément, à quelque part, vient nous transformer, nous bouleverser, nous relever, offrir des horizons nouveaux. Jésus-Christ, c'est quelqu'un vraiment qui vous aime, qui vous accueille et qui vous change. La vie n'est plus la même avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Conclut. Nous sommes invités à aller à la rencontre de Jésus, comme les mages. J'espère que nous le faisons chez nous, à la table du petit déjeuner, ou au moment du goûter, ou à la place de BFM TV. Nous sommes appelés à la rencontre de Jésus. Nous le faisons ici, ensemble, et c'est tellement un privilège de le vivre ensemble. Nous sommes appelés à aller à la rencontre de Jésus, comme les mages. Et comme eux, j'espère que nous repartons par un autre chemin, transformés par la rencontre avec le Christ vivant. Quel sera ce chemin pour chacun, pour chacune en 2022? Quel sera le chemin pour toi, pour moi, personne ne peut le dire avec précision parce que les chemins, ça réserve des surprises. Mais finalement, je suis absolument convaincu que tout chemin de foi est une épiphanie. Que dans tous nos chemins de foi, Dieu se révèle à nous. Si nous sommes prêts à entreprendre le voyage et à ne pas nous arrêter en chemin, nous contentons de nos acquis, alors nous le rencontrerons. Et sa rencontre nous transformera et nous repartirons par un autre chemin. Et sur cet autre chemin que nous emprunterons, il se révélera encore à nous. Dieu avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et il nous transformera encore. Voilà le chemin de foi qui ne s'arrête jamais, qui se renouvelle sans cesse. Un chemin fait au départ d'une rencontre décisive sur lesquelles je nous espère tous et toutes engagés, des marcheurs, des marcheuses, accompagnés, aimés, stimulés par Dieu. Que cette nouvelle année soit donc faite pour nous de nombreuses épiphanies. Amen. Je nous invite à quelques instants de réflexion personnelle, silence. On peut s'adresser à Dieu pour soi, certainement des choses à lui dire ou à entendre de sa part. Et puis Hortus nous accompagnera dans un magnifique chant qui s'appelle « Change ». Et après « Change », nous pourrons prendre un moment de prière communautaire. Mais d'abord, un petit arrêt, quelques instants.
ton royaume. Devant toi à genoux, nous te chantons un psaume. Change nos vies et nos envies. Rends nos cœurs humbles, nos bonheurs simples. Échange mon cœur gravé de pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi ton œuvre, Père. Échange mon cœur gravé de pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi ton œuvre,
à prendre un temps de prière, que vous puissiez recevoir ce que Dieu vous a donné ce matin et que si vous avez besoin de le partager, qu'on puisse vraiment s'édifier les uns les autres.
Seigneur, montre-moi où je dois prendre un autre chemin, mais montre-moi aussi où je peux prendre un autre chemin. Et je te remercie que tu marcheras à côté de moi tout le long de cette année. Merci beaucoup. Amen.
Seigneur, nous sommes interpellés par ce récit, par ta parole, et nous réalisons combien dans nos vies nous avons vécu des choses difficiles, des épreuves dans lesquelles nous ne savions plus où aller, que faire. Seigneur, merci parce que tu nous rencontres afin de nous parler, d'être une épiphanie dans notre désarroi, mais aussi notre espérance en toi. Et nous réalisons, Seigneur, que cette rencontre nous transforme, qu'elle nous fait voir autre chose, qu'elle nous décentre de nous-mêmes, qu'elle fait de nous des personnes nouvelles qui peuvent non seulement espérer, non seulement croire, mais voir les belles choses que tu accomplis, les merveilles que tu fais pour nous, par Jésus, par ta parole, par ton esprit. Amen.
Oui, Père, une rencontre avec toi, Seigneur, et c'est vrai que c'est des changements. Tu nous rejoins, Seigneur, tu nous donnes des perspectives, tu changes nos vies. Et Seigneur, nous pouvons repartir, non plus rester dans nos zones de confort, mais prendre d'autres chemins. Tu ouvres d'autres chemins, Seigneur, d'autres perspectives. Et Seigneur, merci pour cette liberté, nous l'avons chantée aussi. Seigneur, tu donnes la liberté. Et Seigneur, merci pour cette rencontre qui nous remplit et qui nous donne cette confiance d'être avec toi et toi avec nous. Et Seigneur, de pouvoir faire d'autres chemins, Seigneur, avec toi et Seigneur, pour ta gloire et pour notre joie aussi. Amen.
Seigneur, je te prie que je ne stagne pas dans ma foi. Je te prie que je ne sois pas tiède, Seigneur. Et c'est vrai que le changement, l'évolution, la transformation peut faire peur souvent. Mais lorsqu'elle est faite par toi, Seigneur, lorsque tout ça est fait par toi, ça ne peut être que merveilleux. Et je te remercie parce que ce récit nous parle encore aujourd'hui, Seigneur, dans notre temps, Seigneur. Et je te remercie pour ça. Dans le nom de Jésus, amen.
Le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai.
Puisse le Seigneur accueillir comme un parfum de bonne odeur la confession de nos lèvres. Nous arrivons au terme de ce culte. J'ai juste quelques annonces à vous passer. J'aimerais d'abord remercier celles et ceux qui permettent que nos cultes se passent dans les meilleures conditions possibles. Ceux qui ont assuré le nettoyage des locaux cette semaine. Celles qui nous ont si bien accueillis tout à l'heure. Daniel au son, Roxane à la projection, au streaming. Merci à Hortus aussi d'avoir soigneusement préparé ce culte. Si vous voulez découvrir le dernier morceau musical d'Hortus, ce que je vous recommande de faire sur les bons réseaux sociaux, vous découvrirez un titre assez remarquable qui s'appelle « Confiture ». Je vous encourage vivement à aller à la découverte de ce nouveau titre dont le clip a été tourné ici. Pour vous dire, il y a des gens de Paris qui nous ont visités l'été passé, qui ont découvert le clip, qui ont dit « Ah, mais ça, c'est dans votre église !» Alors, c'est très chouette. Voilà, je vous encourage à découvrir ce nouveau clip. Cette semaine, nous aurons le caté, vendredi soir. Les jeunes concernés et leurs parents seront informés. Normalement, ça tient, séance du caté, de nouveau, tous les 15 jours. Vous dire aussi que Célina et moi, nous sommes à votre disposition pendant la semaine ou même dès après le culte, si vous avez envie d'échanger un moment, de prier, si vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Célina est encore en vacances aujourd'hui, mais elle sera là aussi dans la semaine et dimanche prochain. Trouver à la sortie la possibilité d'exercer la libéralité dans la petite corbeille ou par twint ou par virement. Merci pour votre fidélité, elle permet à notre Église de tenir chacun de ses engagements et c'est précieux. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Avec cette belle image glanée dans un lectionnaire biblique, et cette phrase qui m'a touché cette semaine, « Bois de la mangeoire, bois de la croix, bois de l'arbre de vie, nous regardons vers le Dieu que tu tiens, nous regardons vers le Dieu que tu portes, nous regardons vers le Dieu qui fait de tes feuilles la guérison des nations, de ton fruit la vie éternelle, pour le sauvetage, la restauration et la réconciliation. Nous ne regardons personne d'autre. Que le Seigneur vous accompagne, vous garde dans la paix et soit à vos côtés comme il a promis de l'être pendant cette nouvelle semaine et toute l'année. Allez dans la paix. Amen. Gras des fois, mais c'est pas grand chose.
Ah ouais, ça se décolle. Très bien. Alors, c'est juste que je veux pas que tu la vives. C'est juste ça.
Non.
Parce que la bûche, en fait, moi je redécolle tout, puis l'année prochaine, je la réutilise. Tu vois ce que je veux dire?
Écoute, je la garde encore un petit peu en bas.
Mais je pense, tu sais pourquoi? Il n'y a pas assez de monde. Du coup, ils font. Risbé. Ouais. Tu vois, c'est ça le truc. S'il y avait assez de soignants, hein? Peut-être qu'on ne devrait pas en arriver là. Mais je pense, ma chérie, malheureusement, c'est partout comme ça. C'est pas qu'en Suisse. Hein.
Thank you.